Actu SF, les podcasts.
Bonsoir. Nous allons commencer, bien que Sylvie Bérard ne soit pas encore parmi nous, mais elle va sans doute arriver. La gueule de l'autre. Donc nous sommes ici avec vous en cette fin de journée pour évoquer ce thème qui est la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. On va commencer peut-être par le cinéma. L'intitulé évoquait le film Les yeux sans visage, dont j'espère on va parler, qui est projeté au festival. Il l'a été aujourd'hui, il le sera de nouveau samedi. On peut évoquer d'autres films également, comme Brésil ou peut-être La piel que habito d'Almodovar. L'intitulé évoquait aussi, peut-être de façon un peu maladroite, les nouvelles modes, des nouvelles pratiques, c'est le mot mode qui est un peu maladroit, des nouvelles pratiques comme la bioplastie et la vaginoplastie, la manière dont on peut intervenir sur le corps aujourd'hui. Et ce sont donc des sujets qui sont en prise directe avec la science-fiction, et la science-fiction nous permet d'imaginer des choses qui ne sont pas encore possibles aujourd'hui et qui peut-être le seront demain, ou nous permet aussi de poser des questions sur la manière dont ces pratiques nous interrogent sur notre identité, la possibilité de changer d'identité et la manière dont la société accepte ou n'accepte pas ces changements. Pour en parler, donc, nous avons avec nous Élodie Serrano. Donc vous vous passionnez depuis l'enfance pour les littératures de l'imaginaire. À 15 ans, vous découvrez des forums d'auteurs et vous écrivez vos premières nouvelles. Puis vous faites des études pour devenir vétérinaire. Vous revenez à l'écriture en publiant d'abord des nouvelles, puis vos premiers romans, Le sort en est jeté en 2017, et le second, Les baleines célestes, paru cette année, qui reflète votre amour pour le space opéra et votre fascination pour le monde du vivant. Et puis Yves Ménard, alors vous êtes né à Québec, vous avez publié plus de 50 nouvelles de science-fiction en français et en anglais dans de nombreuses revues, ainsi que 21 livres, parmi lesquels Le livre des chevaliers, Les marches de la lune morte, de nombreux romans pour la jeunesse, des recueils de nouvelles. Vous avez également collaboré avec Jean-Louis Trudel et publié avec lui sous le nom de plume de Laurent McAllister, notamment le roman Suprématie. Cette année, paraît en français la traduction du premier volume de votre roman de fantasy, Crisante. Voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est... je vois notre troisième intervenante qui arrive, Sylvie Vera. Je vais vous présenter également. Sylvie Bérard, vous êtes née à Montréal. Vous vivez en Ontario depuis plus de 20 ans. Et vous vous partagez entre trois activités. L'enseignement des littératures à l'université. La recherche, avec des travaux qui portent sur la littérature autochtone, le queer et la science-fiction. Et l'écriture. Vous êtes auteur de deux romans de science-fiction parus chez À Lire, Terre des Autres et la saga d'Ilige. Et en 2017, vous avez également publié un recueil de poésie oublié qui a reçu le prix de poésie Trillium en langue française en 2018.
Première question. Il manque un. Il manque aussi chez À Lire une sorte de nitescence langoureuse en 2017.
D'accord.
Aussi.
Parfait. Nous sommes donc exhaustifs. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce que vous avez vu Les yeux sans visage un film qui a un statut de classique, mais dont je ne suis pas certain qu'ils sont encore beaucoup vus aujourd'hui. Et qu'est-ce que ce film évoque pour vous? Et est-ce que pour vous, il se rattache à la science-fiction? Qui a vu éventuellement Les yeux sans visage
Je pense avoir vu le film, mais je me souviens surtout de l'affiche obsédante. C'est l'affiche où on a le visage avec les lignes.
Moi, j'ai vu le film, je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'affiche.
Je n'ai pas vu le film, mais je me rappelle de l'affiche. C'est l'équivalent de « j'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film ».
Non, dans mon cas, ma culture cinématographique est essentiellement constituée de lacunes. Alors, non.
Très bien.
Alors, moi, je ne l'avais pas du tout vu. Après, quand j'ai vu le sujet de la table ronde, je me suis penchée sur la question.
C'est vrai que c'est pas un... Donc je l'ai regardé il y a une semaine, deux semaines. C'est vrai que c'est un film qui est assez... Bon, moi, on me l'avait... Enfin, il est présenté comme de l'horreur, et comme moi, je suis vétérinaire, que j'ai fait de la chirurgie, ça m'a pas particulièrement impressionnée. Mais c'est vrai que c'est un film qui a un côté un peu poétique, qui parle vraiment du... Enfin, pour moi, du rapport au physique, à l'identité du visage, et aussi la punition du scientifique fou qui fait n'importe quoi. Et... Enfin, il y a un côté scientifique fou. Donc pour moi, c'est de la science-fiction, parce qu'il y a un côté scientifique fou qui fait des... Alors, pour l'époque, ce n'était pas crédible. Aujourd'hui, on peut faire des greffes de visage.
Oui, alors je rappelle en deux mots l'argument du film. Hein. C'est l'histoire d'un médecin qui tue des jeunes femmes pour pouvoir faire des greffes de peau et réparer le visage de sa fille. Voilà, donc effectivement, on est quand même dans un schéma d'histoire d'épouvante, avec une série de meurtres. Et on a cet archétype du personnage du savant fou. Alors fou, enfin en tout cas, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. On n'est même pas tout à fait sûr que sa fille soit très heureuse de tout ce qui se passe. Ça rejoint un petit peu ce qu'on trouve dans le film d'Almodovar, La piel qui habite, que vous avez peut-être vu tous les trois, où on a de nouveau cette situation du chirurgien qui, vraisemblablement sans le consentement de la personne qui l'opère, procède à une série d'opérations de chirurgie esthétique. Là, il s'agit de transformer totalement une personne en une autre personne. Sur le film d'Almodovar, quand vous l'avez vu, est-ce que pour vous, Sylvie, peut-être, est-ce que c'est un film qui se rattache à la science-fiction et de quelle manière ?
Ben, on peut. C'est un point de vue, c'est une perspective, la science-fiction. Alors, je pourrais dire oui. Science-fiction ou la prospective ou de l'anticipation, mais en même temps, on est tellement proche, hein, comme vous disiez, on est tellement proche de la faisabilité aussi de ces chirurgies-là. Alors, oui, si ça nous fait réfléchir aussi, si c'est quelque chose qui ne peut pas nécessairement se faire ici, maintenant, mais qui pourrait peut-être se faire dans un avenir très, très rapproché, oui, pourquoi pas?
Mais la science-fiction pose beaucoup le problème de l'identité. Alors, dans cette mesure-là, je pense que ça se rattache beaucoup.
Oui, alors le...
Si je peux ajouter quelque chose, moi, je pensais, en chirurgie esthétique, je pensais à un de mes films préférés, Brasil. Est-ce que Brasil est de la science-fiction? La mère qui a cette série de chirurgie au point où, dans les rêves et les fantasmes du fils, elle se confond avec la jeune femme dont il est amoureux. Alors, est-ce que Brasil est de la science-fiction ou juste un rêve, un film onirique, par exemple?
Ça renvoie trop à 1984 pour que ça soit pas de la science-fiction.
Alors, la chirurgie esthétique dans Brasil, c'est surtout une source de gag. C'est-à-dire que le personnage voit éberlué sa mère rajeunir de plus en plus. On devine que probablement ça va mal finir. Mais ça pose la question de quand les choses sont possibles. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que la possibilité de changer son propre visage, sa propre apparence, voire sa propre identité, à partir du moment où c'est possible, qu'est-ce qui va se passer? Demain, je décide d'être quelqu'un d'autre. Je décide de me donner l'apparence d'une personne célèbre ou pas. Si la chirurgie permet de le faire, est-ce que je vais avoir le droit de le faire? Ça, je pense que c'est un bon thème de science-fiction. Est-ce que c'est des sujets, des questions auxquelles vous êtes confrontés dans ce que vous avez écrit?
En fait, j'aurais aimé donner une chance à Élodie.
Oui.
au lieu de prendre tout le temps.
Donnons une chance à Élodie.
pas forcément la chirurgie ici à proprement parler, mais le rapport, je pense que ça va ensemble, le rapport qu'on a à l'apparence physique. Parce que c'est intimement lié, la chirurgie esthétique, à l'origine c'est censé être quelque chose de réparateur, et de nos jours c'est beaucoup un moyen de devenir beau. Devenir plus beau, on considère que quelque part on est raté et qu'il faut qu'on répare ça avec la chirurgie esthétique. Et moi j'ai plusieurs nouvelles où j'aborde plus le côté du rapport au physique, du rapport à est-ce que c'est important d'être beau, est-ce que c'est la seule qualité quand on est une jeune femme, c'est d'être belle, et est-ce que ça nous empêche pas de devenir pleinement soi-même. C'est des sujets que j'aborde plus que la chirurgie esthétique à proprement parler. Mais il y a des chances que je finisse par y venir.
Mais j'ai l'impression, pour ma part, quand on parle, le thème de l'identité, pour moi, va passer par la mémoire beaucoup plus que par l'aspect physique. Alors, je me retrouve surtout à écrire des histoires de gens qui se rappellent qui ils sont, oublient qui ils étaient, des choses comme ça, plus que l'apparence en elle-même. J'essaie frénétiquement de me rappeler de tout ce que j'ai écrit, puis avec le décalage horaire, c'est pas génial, mais j'ai pas l'impression d'avoir directement abordé le thème. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une opinion.
Elle nous intéresse.
Mais je la donnerai plus tard.
C'est ça dépend aussi jusqu'où s'étend la gueule. Est-ce que ça s'étend au corps au complet aussi?
Est-ce qu'on peut parler du corps complet? Oui.
Mais non, je pensais surtout à ce que Laura McAllister a pu écrire, par exemple. Mais je ne sais pas si... Il y a comme deux idées qui se mêlent un peu par rapport à ça en ce moment dans ma tête. C'est, oui, il y a la chirurgie esthétique, le mot le dit aussi, pour... au nom de certains critères de beauté, on choisit d'avoir certaines interventions. Mais dans les deux exemples, de films d'Almodovar et de l'autre film au début, l'idée, le principe n'est pas esthétique. Le principe est de faire devenir quelqu'un autre, donner une autre apparence à une personne. Et à ce moment-là, il n'y a pas tant de critères esthétiques que des critères peut-être un peu pervers dans ces cas-là aussi. Mais on peut imaginer des chirurgies qui seraient peut-être des chirurgies dites esthétiques, mais qui existent aussi en ce moment, mais qui permettent simplement de se transformer pour avoir une apparence autre, une apparence inusitée, une apparence à la limite de l'humain, un peu le prolongement des tatouages faciaux, par exemple. Et alors là, on peut dire que c'est esthétique parce que peut-être que dans une sous-culture, ça pourrait participer de critères esthétiques, mais ce ne sont certainement pas des critères communément admis, par exemple. Donc, il y aurait ces deux éléments-là dans la chirurgie.
J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est toutes les cultures humaines, mais il y en a beaucoup où il y a toutes sortes de modifications corporelles qui sont couramment pratiquées. Les perçages, la circoncision masculine, pour l'instant.
Peut-être que là, ce n'est pas une question d'apparence.
C'est pas une question d'apparence, c'est ça, c'est social. Ouais. Mais il y a des sociétés, là, je vais probablement dire une bourde, est-ce que c'est les Incas ou les Mayas qui, pour certains bébés, appliquaient des planches de bois à l'avant, à l'arrière et sur le côté, et ça donnait un crâne d'une forme très particulière quand il grandissait. Si je me rappelle bien, c'était religieux. On a fabriqué des nains au Moyen Âge en faisant grandir des enfants dans des jarres qui étaient munis de trous pour laisser passer les jambes et pour évacuer, et puis on les laissait grandir. Et donc, quand ils avaient atteint l'âge adulte, on brisait la jarre et on avait un nain en forme de jarre. Ce qui est assez dégueulasse, mais c'était considéré comme quelque chose de normal. Ça se faisait, puis bon, normal dans le sens que ça créait un, on dit en anglais, un grotesque. Bon, et le but, c'était socialement admis. Et donc, c'est une tradition qui remonte loin, et se faire greffer des cornes, ce qui est maintenant possible, c'est encore provocateur. C'est encore provocateur d'une manière dont les perçages assez exotiques ne sont plus. Et c'est maintenant, j'ai vu ça au cours de ma vie, voir des perçages qui allaient au-delà des lobes d'oreilles, mais devenir monnaie courante. Et j'espère qu'on va s'en lasser. Moi, ça ne me plaît pas tellement.
Pourquoi ça ne vous plaît pas?
Je pourrais pas dire. Est-ce que c'est parce que c'est différent de ce que je connaissais? Ou est-ce que c'est parce que je trouve que c'est un peu trop envahissant? Mais c'est un goût personnel, là. Je cherche pas. Mais je l'accepte mieux que je l'acceptais au début quand c'est arrivé. C'est aussi la normalisation avec la vision. Si ça devient monnaie courante de se faire greffer des cornes, ben on le remarquera plus tellement.
Bon, on parle depuis le début de chirurgie esthétique. Peut-être que le mot de chirurgie plastique est plus approprié, puisque après tout, il peut s'agir d'opérations qui ne sont pas nécessairement visibles à l'extérieur. Et par exemple, une personne transgenre peut garder un visage absolument identique et néanmoins avoir changé d'identité. Et donc là, peut-être que le mot esthétique ne convient pas. Est-ce que le thème de la personne transgenre, c'est quelque chose qu'on rencontre en science-fiction aujourd'hui et éventuellement dans vos écrits à tous les trois? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà abordé?
Oui. dans la saga d'Ily, mon personnage est transgenre. En fait, on pourrait dire que les transgenres, c'est un personnage qui, à un moment donné, se dédouble et donc son double est d'un autre genre. Donc, le double a des souvenirs, conserve les souvenirs
de son origine.
Passé, de son origine, mais est dans un corps masculin. Je pense que la science-fiction l'a quand même beaucoup fait. Pas nécessairement de façon médicale. Il y a des façons, d'explorer la thématique. C'est médical, c'est une mutation génétique, c'est pas une opération comme telle. Il y a ça aussi. Il y a toute la question aussi. Il y a un débat là-dessus du côté aussi des questions transgenres, parce que certaines personnes vont dire que c'est une mutilation consentie si on veut aller jusqu'à une opération, par exemple. D'autres personnes, je dis ça parce qu'il y a un chercheur que je connais qui travaille à la fois sur les identités transgenres et ce qu'il appelle le transcapacitisme. Alors, c'est quelqu'un qui choisirait parce que, pour des raisons, lui dit... Pour des raisons esthétiques, quelqu'un pourrait décider qu'il a un orteil en trop et de dire à un médecin, mais je veux me faire enlever mon orteil. Et il est lui-même transgenre. Il a très conscience que ce sont des questions très délicates, mais il essaie un petit peu de brasser la cage et de dire, mais quelle est la différence éthique entre se faire mutiler parce qu'on dit qu'on est transgenre et se faire mutiler parce qu'on est on a toutes sortes d'autres idées sur sur l'allure que son corps devrait avoir alors il joue un petit peu sur mais j'aime bien ce débat là
Oui, mais c'est certain que il y a c'est environ 1,7% de la population qui naît, je m'excuse, j'ai le mot en anglais, est-ce qu'on dit, comment on dit intersex?
Intersex,
bon. Eh bien, avec des parties génitales qui ne sont pas dans les normes. Et bien, qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est le docteur, très gentiment, sans consulter personne, surtout pas les parents, eh bien, on a enlevé ce qu'il y avait en trop, on a fait ci, on a fait ça, pour que votre enfant soit normal. Dans le fond, si un médecin peut le faire à toi quand tu es un bébé, mais toi, quand tu es adulte, tu ne peux pas te le faire quelque chose d'équivalent, il y a quelque chose d'un peu honteux là-dedans. C'est une question de société. Qu'est-ce qu'on permet de faire pour normaliser et pourquoi faut-il normaliser à tout prix?
Alors, pourquoi? Il peut y avoir toutes sortes de réponses possibles. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons en France, par exemple, la question du sexe neutre s'est posée sur le plan juridique et la Cour de cassation a tranché l'année dernière, je crois, en disant non, mais en France, il n'y aura pas aujourd'hui de sexe neutre dans l'état civil. Donc, une personne, en ce qui concerne l'état civil, doit être soit un homme, soit une femme, et il n'y a pas d'autre possibilité. Donc voilà, sur le plan juridique, en tout cas, c'est bloqué. C'est ce qui pose des tas de problèmes, parce que vous dites 1,7%, c'est considérable. Et puis, voilà, s'ajoutent à cela les personnes qui ne sont pas dans ce cas, mais qui peuvent considérer que le corps dans lequel elles sont, à un moment donné, n'est pas le leur, pas celui qu'elles souhaitent pour s'accomplir en tant que personne, et donc il va falloir le modifier.
Oui, pas celui auquel elles s'identifient, parce qu'il y a toute la question, la différence entre, encore une fois, excusez le vocabulaire, « sex and gender ». Sylvie, c'est sexe et genre?
Sexe et genre.
Oui, genre ou gender. Hein?
Oui, ou gender. Bon, gender. C'est ça. Il y a une différence entre être homme ou femme et mâle ou femelle. On peut être intersexe, donc mâle, femelle, non, entre les deux. Mais on peut aussi être de sexe mâle, mais dire non, je suis une femme, je me suis toujours vue comme une femme depuis que j'ai 5 ans. Je savais que j'étais une fille. Et maintenant que j'en ai 55, je voudrais que finalement mon corps corresponde à mon identité. Et ça pose un problème. Bon, vous me dites, c'est ça, je n'étais pas au courant. Il n'y a pas de sexe neutre en France. Aux États-Unis, ben là, le gouvernement Trump menace de redéfinir le genre comme uniquement lié au sexe et que ça sera soit mâle, soit femelle et rien d'autre. Évidemment, c'est pour satisfaire une partie de la population qui ne tolère pas l'idée, mais qui se trompe parce que c'est pas vrai qu'on est soit mâle, soit femelle. Et donc, ben, dire qu'on est homme ou femme, ça, c'est vraiment, ça devient culturel. Il y a d'autres cultures où on considère qu'il y a plus que deux genres.
Et là, est-ce que c'est pas un peu le rôle de la science-fiction de secouer un peu tout ça, de donner des coups de pied dans la fourmilière et de préparer le terrain pour que les mentalités et les sociétés puissent changer?
Totalement.
Oui.
Totalement. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question de la représentation. C'est un sujet qui est très large parce qu'il y a représenté, il y a bien représenté. Là, on commence à balbutier sur représenter. Ce que les personnes concernées aimeraient, c'est être bien représentées. C'est des débats. Tous les films qui abordent la question sur le transgenre sont souvent très problématiques aux yeux des concernés parce qu'ils sont mal abordés et qu'ils entretiennent des idées fausses, notamment le fait de faire jouer une femme trans par un acteur homme, cis. C'est problématique parce que ça entretient l'idée qu'une femme trans, au fond, c'est juste un homme qui s'est déguisé. Et donc, je pense qu'en SF, on a la possibilité de mettre ces personnages en avant et de dire, ben, ils sont comme les autres, en fait. Ils vivent des aventures comme tout le monde. Ils prennent un vaisseau spatial et ils ne sont pas différents. Et ils sont normaux, et puis on est qui pour leur dicter c'est quoi leur genre, en fait? C'est pas nos oignons, ce qui se passe dans leurs pantalons. Enfin, il me semble.
Ou alors, la science-fiction peut nous dire, ils sont différents, mais ça va. ça marche. Ils ont le droit aussi d'être différents. C'est pas juste de dire, ah non, parce que là, on revient à une autre norme. Ah oui, ils sont différents, mais ils sont comme nous, entre guillemets. La science-fiction peut aussi nous montrer que non, il y a peut-être des créatures très très étranges, inédites qu'on n'a jamais vues dans notre vie quotidienne, mais ça va. On a le droit aussi d'être étonné devant les créatures de science-fiction. Ça nous donne aussi ce droit-là. C'est ce que j'aime la liberté. Il y a les deux en fait, hein, peut-être.
À certains points de vue, la science-fiction a souvent été timide. Pour bien des choses. Au niveau des relations entre les sexes, il y a tellement de science-fiction de l'âge d'or des années 50 qui projette un futur dans lequel maman fait à manger pendant que papa est au travail, mais elle fait à manger en appuyant sur un bouton du four nucléaire. Il y avait une grosse difficulté à voir un avenir et à voir le présent où il y a plus, pas encore assez, mais plus d'égalité. Et j'ai l'impression, au niveau de la représentation des transgenres en particulier, ben oui, on est en retard. Et je suis aussi coupable que n'importe qui. Je pense que la SF commence à refléter plus cet état de choses. On voit dans certains romans où l'auteur joue avec les genres. Le roman d'Anne Leckie, la trilogie de l'Ancillaire, où la narratrice dit en parlant des humains, toujours « elle ». Et on ne sait pas, on est là en tant que lecteur, mais je veux savoir, elle parle de sa nièce, mais est-ce que sa nièce est mâle ou femelle? Et ça nous interpelle en disant, est-ce que c'est important? Et ben, peut-être, oui, non. Alors, on se pose la question. C'est provocateur, c'est délibéré. Puis dans son plus récent roman, je ne sais pas s'il a été traduit en français déjà, on mentionne la société, il y a des hommes, des femmes, et là, le terme en anglais m'échappe, mais qui ont un pronom propre, et elle ne dit jamais comment c'est déterminé. J'étais là, est-ce que c'est parce qu'on s'affirme comme tel à la sortie de l'enfance? Là, je dis oui, mais comment? Est-ce que c'est juste je suis ça, ou est-ce qu'il y a un aspect corporel? Et elle ne veut pas le dire. Puis moi, j'étais là, moi, OK. Puis elle m'a eu parce que j'étais là, oui, mais je veux savoir. Et elle refuse de le dire. Là, c'est exprès, ça déstabilise, ça nous force à voir les choses d'une autre façon. Mais c'est encore trop rare.
C'est Ursula Le Guin, avec la main gauche de la nuit, qui nous mettait face à ce sujet-là, avec son narrateur qui est sur une planète étrangère où les gens ne se genrent pas, ils sont considérés à genre, et ça travaille beaucoup le narrateur. Et je trouve que... C'était ce qui est intéressant dans le travail d'Ursula Le Guin, c'est qu'elle a fait de l'anticipation sociologique. Parce que quand on pense anticipation, on pense science-fiction, on pense technologie. On pense qu'on va réfléchir à la technologie de demain, le four nucléaire qui va permettre à la ménagère de faire plus vite son repas. Et effectivement, on a peut-être oublié d'anticiper au niveau... Enfin, on a peut-être moins anticipé au niveau social. Alors que la société évolue, la société bouge. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand j'écris du space opéra. Je me projette dans un futur très lointain et j'ai l'optimisme de me dire, est-ce que dans ce futur très lointain, est-ce que les questions de couleur de peau seront problématiques? Est-ce que les questions de genre, de sexualité sont problématiques? Ou est-ce qu'on... Moi, j'aime bien avoir l'optimisme de dire, c'est plus un problème, et du coup, on croise des personnages de toute couleur de peau, de toute sexualité, de tout... Alors le genre, c'est plus difficile à écrire parce qu'on manque de pronoms neutres en français et c'est pas évident, on est obligé de choisir des genres et je trouve ça un peu indiscret. C'est compliqué d'écrire un personnage transgenre parce que j'ai pas envie de l'écrire en mode alors c'est il, mais avant c'était elle, vous comprenez. Je trouve ça un peu mettre les pieds dans le plat de façon un peu grossière et c'est pas mon objectif. Donc j'ai du mal à écrire un personnage, j'aimerais bien arriver à écrire des personnages transgenres, mais je n'ai pas encore trouvé comment le faire de façon naturelle sans insister sur cette partie-là. Je voudrais juste un personnage transgenre qui fait ça dans son aventure dans le futur sans que personne l'embête parce que la société est devenue super géniale, top.
Peut-être que la science-fiction, non seulement pour mission, ou en tout cas pour possibilité d'aider non seulement la société à bouger, mais même à faire bouger la langue elle-même. Que là, voilà, être auteur de science-fiction, c'est l'occasion d'inventer les choses qui manquent, de se débarrasser des choses qui gênent. C'est cette espèce de faux neutre en français qui est un truc d'hypocrite, puisque le neutre français, il est masculin. Donc, c'est quand même un problème énorme. On peut pas considérer, quand on écrit un paragraphe en utilisant du neutre... Ça n'est pas un vrai neutre. Tous les accords seront masculins. Donc là, il y a peut-être des choses que les écrivains, vous, d'autres, doivent regarder en face et puis se débarrasser des choses qui gênent et en inventer de nouvelles. Je ne dis pas que ça soit forcément facile. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur ce sujet ou des questions à nos trois auteurs? Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou pas. Oui. Il y avait une question là.
Merci. Moi, je voulais vous demander quelque chose par rapport au corps, de nouveau, et au vôtre. Et je veux voir si demain, vous pouviez être comme sur un ordi et modifier votre corps comme vous vouliez, ajouter, enlever, changer les textures. Et bien, qu'est-ce que vous changeriez? Ça m'intrigue.
Rien du tout.
Moi, c'est clair. J'ai commencé à perdre mes cheveux à 17 ans. Oui, et ils étaient très drus avant. Alors, il m'arrive de rêver une ou deux fois par année que je me peigne parce que j'ai une chevelure luxuriante. Et au réveil, je suis bien triste. Alors oui, je pense que je récupérerai mes cheveux. Par contre, j'ai jamais été tenté de prendre les... comment ça s'appelle?
Les moumoutes?
Non, oui, les perruques, ça, non. Mais il y a des...
Faire semblant d'avoir des cheveux, c'est possible.
Oui,
c'est pas
mais le Rogaine qui fait repousser des cheveux, j'ai dit non, je vais assumer ma calvitie. Mais quand même, oui, je pense que je ferais ça et puis que je m'enlèverai un petit peu de graisse superflue au niveau du bedon. Mais ça, c'est par pure vanité.
Non, mais, en fait, je crois que c'était aussi peut-être que dans votre quotidien, il y a des choses que vous devez faire Et pour X raisons, peut-être que si vous aviez une jambe en plus, ben, ce serait vachement pratique et finalement...
Des modifications radicales.
Oui, je parlais à fond, quoi.
Ah oui, ben une paire de bras supplémentaires.
Pour écrire plus vite.
Je pense pas. Parce qu'il me faudrait un deuxième clavier.
Ah, ça, c'est le plus simple.
Oui, mais une paire de bras supplémentaires, je dirais pas non. C'est juste que ça a un coût en termes énergétiques. C'est métabolique. Ça va être coûteux. Ça va coûter beaucoup plus cher à manger.
Et cognitif aussi, parce que...
Oui. Bien, évidemment, un plus gros cerveau pour avoir un cervelet qui peut gérer ça. Mais oui, mais je dirais pas non à ça.
Moi, j'atteindrais peut-être les cheveux en vert dans ce point. Non, je pense, dans ma fiction, en tout cas, je sais que je suis obsédée par une chose. C'est pas nécessairement... c'est aussi par les transformations, mais c'est aussi par la capacité à me projeter carrément dans le corps de quelqu'un d'autre. Dans Terre des autres, mes personnages... j'ai fait aussi un petit article là-dessus, un article fictif sur la greffe cérébrale. La capacité de carrément transférer notre pensée dans un nouveau corps. Bon, ça pourrait en fait être très économique en termes de chirurgie esthétique, parce qu'on pourrait se transférer dans un corps jeune, en autant qu'on ne décide pas de balancer le contenu du corps jeune pour se transférer dedans. Mais oui, c'est ça, mais à ce moment-là, c'est peut-être pas dans l'intention d'améliorer autant que dans... l'espèce de fantasme de vivre l'expérience d'un autre point de vue. Ça, c'est vraiment... Je pense que toutes les fois que j'écris un nouveau livre, je me dis, je ne l'ai pas fait cette fois-là. Puis je regarde, je l'ai fait encore. Il y a encore quelque chose de cet ordre-là. Donc, je pense que ça fait partie de mes obsessions personnelles.
Non, mais rien du tout, parce que, en fait, pour moi, ce qui est important et tout ce qui est mon parcours personnel, c'est vraiment de me réconcilier avec mon corps, avec ses limitations et d'apprendre à l'aimer tel qu'il est et l'épargner, le respecter tel qu'il est. Et du coup, peut-être que quelque part, je commence à l'aimer finalement parce qu'il me va bien comme ça, avec tous ses petits défauts. La liste peut être longue, mais... Si vraiment on fantasmait peut-être des ailes pour voler, quoi, mais parce que c'est cool de voler.
Une autre question ?
Oui. C'est pas vraiment une question, je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit au début, en parlant de la différence entre se faire une chirurgie esthétique, de se faire enlever un orteil par exemple, et faire des opérations parce qu'on est trans et qu'on a envie de bah voilà. Je voudrais juste, sur la notion de mutilation, qui pour moi, on n'en a pas. Enfin, il y a une différence entre se faire enlever un orteil et se faire reconstruire une partie différente, du corps. Par exemple, c'est pas juste se faire enlever des seins, par exemple, c'est se faire une torsoplastie, se faire une reconstruction du torse. On se fait pas couper un pénis, on se fait faire un vagin, reconstruire un vagin, en fait, par exemple, etc. Voilà.
Non, ben c'est ça. C'est dans un article d'Alexandre Barry, ce n'est pas mes propos quand je l'ai dit, mais ce qu'il dit, en fait, c'est on part d'un corps qui est, par la science, par la médecine, considéré comme étant fonctionnel et on le transforme, on agit dessus pour le transformer. Alors, c'est juste dans ce sens-là, mais je le disais avec plein de précautions parce qu'effectivement, on parle de toute autre chose.
Je voulais juste rajouter ça, en fait.
Non, c'est bien. C'est une très bonne précision.
Oui, bonjour. Je reviens sur ce que vous disiez sur un personnage qui soit neutre en français. Et avec tout le débat qu'on a eu sur l'écriture inclusive, on a vu revenir à un pronom médiéval neutre qui est le iel, I-E-L. Et en fait, c'était la question, ça serait est-ce que revenir au français médiéval et classique sur le neutre qui existait, et donc qui était clairement différent, est-ce que ça ne serait pas le meilleur moyen d'ouvrir à ce troisième genre qui existait et qu'on a effacé au XVIe et XVIIe siècle ?
Qui veut essayer ?
Alors j'ai le problème avec le YEL, parce que j'ai commencé un manuscrit, j'ai essayé de mettre un personnage à genre, et je me suis dit, je vais utiliser le YEL, justement, dont j'avais... Et j'ai bloqué sur les accords, parce que comment j'accorde mes adjectifs, du coup j'ai bloqué à cette étape-là. Je voulais pas retomber sur le neutre masculin, ça m'embêtait profondément. Donc je fais des circonvolutions complètement foireuses pour éviter d'avoir à accorder les adjectifs, c'est vraiment pas commode. Il y a des choses qui sont en cours de... En français, il y a vraiment des gens qui essaient de réfléchir à des solutions pour avoir un vrai neutre. Et le YEL fait partie des pronoms qui sont... Parce qu'il y a le AL aussi, avec les terminaisons AE éventuellement. Mais c'est un petit peu compliqué. Et puis c'est un peu compliqué à mettre dans les textes malgré tout, à faire accepter éventuellement aux éditeurs et puis aux lecteurs aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs que ça peut rebuter malheureusement. Et puis des éditeurs, parce qu'on l'a vu sur une traduction il n'y a pas longtemps.
Les lecteurs, ça, on ne le saura que si les éditeurs se lancent. Hein. Moi, je pense qu'on peut faire confiance aux lecteurs. S'il y a une bonne histoire, qu'elle soit racontée de telle ou telle... Enfin, si elle est racontée d'une manière qui convient, y compris avec des innovations, le lecteur suivra. Mais je pense que l'endroit où ça va coincer, c'est l'éditeur, ce qui est logique.
Il y a Anne Garetta quand même qui a réussi dès les années 80, on est quand même il y a fort longtemps, à écrire un roman au complet où on ne connaît jamais le genre du personnage, son roman Sphinx. Alors c'est peut-être presque un roman de science-fiction ou d'Oulipo, là, c'est plutôt du côté de l'Oulipo. Mais je repensais aussi, j'ai pas lu Anne Leckie en français, je sais que ça a été traduit, mais je l'ai lu en anglais. Mais quand je l'ai lu en anglais, je me disais, mais... Ma première réflexion, c'était, mais c'est intraduisible, pas dans le sens où, ben oui, il y a le féminin, ça va, mais le féminin doit être tellement présent dans la version française, on doit avoir du mal à ne pas voir un personnage. Je ne sais pas s'il y en a ici qui l'ont lu en français. On doit avoir du mal à ne pas voir des personnages féminins.
Oui, mais j'avais le même problème en anglais.
Oui, mais en anglais, c'est dans, en français, c'est dans tous les accords.
Oui, c'est OK, ça va être partout, dans les adjectifs.
Il le disait, c'est partout, là. On est vraiment... On dit, ah oui, là, je l'ai, mais non, tout à coup, on se bute à un autre accord.
Les accords sont partout.
Mais en même temps... J'allais dire, c'est parce que les problèmes sont différents d'une langue à l'autre. En anglais, le pronom « they », eux, normalement, mais qui marche aussi, est utilisé pour des personnes neutres. De plus en plus, je pense qu'on est en train de se normaliser là-dessus, et ça marche bien pour moi. J'étais comme « oui, ça va bien ». Mais en français, j'ignorais que « IL » était historique. Je viens de voir ça dans un texte. Ça m'a... Ça n'a pas très bien marché pour moi au début. Mais j'avais plus l'impression que c'était difficile avec la grammaire de la langue. Bon, il y a des langues où les pronoms personnels ne sont pas genrés, je crois, le hongrois. Mais il faut dire, ce n'est pas le principe de Sapir-Whorf. Hein. Ce n'est pas parce que ces langues-là ne sont pas genrées qu'il y a l'égalité des sexes dans les pays qui la parlent. Donc... Je ne sais pas à quel point je comprends qu'on veuille avoir quelque chose. En anglais, ils ont de la chance de pouvoir dire « they », puis ça marche. En français, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va être difficile et que je ne suis pas forcément de ceux qui disent « ouais, on y va » parce que oui, mais le résultat, si ça casse les oreilles trop, je ne sais pas.
Ça casse les oreilles parce qu'on n'est pas habitué.
Est-ce que ce n'est pas un petit peu intéressant de casser les oreilles? Parce que vous dites en anglais, ça marche. Donc, en fait, ils ont besoin de rien changer. Donc, tout va bien. Mais donc, ça élimine le...
Non, c'est ça. Je m'oppose pas au nom de la pureté de la langue à ce qu'on fasse quelque chose. Mais il faudrait trouver quelque chose qui marche assez bien. Je veux dire, au Québec, on a féminisé des noms de professions qui n'avaient pas d'équivalent féminin en mettant un « e » au bout, chose que les Français en général ont refusé. L'Académie française considérait que c'était un scandale, mais on disait « une auteure e » pendant longtemps, depuis longtemps. Et puis là, non, tout à coup, autrice est ressuscitée. Là, maintenant, on le dit. Puis je me dis, mais je m'étais habitué à auteur, qui est quand même assez euphonique. Et puis, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas les mêmes réactions. Selon l'endroit d'où on vient, c'est différent.
Autrice, j'ai trouvé ça bizarre au début, et plus je l'utilise, et plus je le trouve normal, et plus je le trouve joli. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de choses.
D'accord. J'aimerais qu'Elisabeth Von Herbourg soit ici, parce qu'elle m'avait dit, quand je vois autrice, je lis autruche autiste.
Hello.
Il n'a pas besoin d'être là, tu le rappelles.
Sylvie et Elodie, comment vous vous présentez, vous? Vous êtes auteur, autrice?
Oui, pendant longtemps, je disais auteur. Maintenant, autrice, je commence à m'y faire un peu. J'aime bien l'idée d'autrice parce que, justement, tu disais, c'est... Oui, ça passe bien. Ça... C'est parce que c'est invisible aussi. Hein? Alors, au fond, est-ce qu'on a envie qu'autrice soit plus visible? Peut-être.
Un bon point.
Par contre, là, quand on essaie de féminiser un texte, avant, auteur, bon, on pouvait toujours faire auteur.e. Auteuriste, ça commence à... Bon, mais on s'habitue à tous les changements aussi. Je pense que je viens de lire un texte, c'est un manuscrit, je ne vais pas en parler plus que ça, mais l'auteur ou l'autrice a essayé d'utiliser justement les pronoms inclusifs. Et c'est vrai qu'au début, surtout que j'ai un logiciel de reconnaissance textuelle et je le lisais dans ma voiture, alors mon logiciel butait vraiment là-dessus. Et puis je m'y suis fait. Au bout de la 200e page, ça passait très bien. Bon, puis elle joue aussi sur le genre des noms aussi par ailleurs, là, mais ça fonctionnait. Mais je dis elle, c'est peut-être Yel, je veux pas la...
Moi, c'est autrice parce que, bah, là, on l'entend bien, auteur-re, ça s'entend pas beaucoup à l'oral. Et accessoirement, autrice, je trouve que c'est reprendre ce que Richelieu nous a volé. Donc moi, j'aime bien.
Encore une question, oui, allez-y.
Ouais, donc en fait, sur des questions de chirurgie esthétique, on va dire comme ça, dans une optique beaucoup plus cyberpunk, qui va être sur une affirmation de l'identité par des modifications corporelles qui vont être des implants ou tout autre chose, en fait. Mais voilà, la notion de l'identité dans la chirurgie, mais pas une identité de genre, vraiment une identité individuelle, personnelle, d'affirmation de soi. Moi, en fait, au début de la conférence, je pensais plutôt qu'elle allait tourner vers ça. Et ouais, ça a beaucoup tourné autour du genre et je trouve que ça n'a pas assez exploré toutes les possibilités que la chirurgie peut donner là-dessus, en fait. Et la vision qu'on a de l'autre, en fait, comment on reconnaît l'autre par rapport à la façon dont il peut s'affirmer comme ça, par son apparence extérieure.
Au début, j'ai mentionné Laurent McAllister parce que je pensais vraiment à la plage des épaves avec l'amélioration des corps comme ça. Je ne sais pas si tu peux en parler un peu.
Oui, un petit peu. Jean-Louis Trudel et moi, on a écrit sur la plage des épaves qui imagine des colons humains qui s'établissent sur une planète qui est extrêmement hostile biologiquement, beaucoup plus que ce qu'ils avaient pensé, et qui ont recours à des implants pour pallier d'abord leur déficience, parce qu'ils ont besoin d'un système immunitaire supplémentaire, mais ils vont aussi, parce qu'ils utilisent un matériau magique, entre guillemets, le plast, ils vont commencer à se faire carrément des mains en plast, et une version après l'autre de plus en plus efficace, de plus en plus forte, de plus en plus indestructible. Ils vont connaître une génération après l'autre où, à un moment donné, je pense que c'est à partir de la troisième, bien, on a une scène où une femme accouche. Alors, naturellement, elle flexe et le bébé sort tout seul. Parce qu'il y a déjà des prises d'interface dans le dos. Et ses yeux ont déjà une coque pour les protéger des rayons du soleil. Alors, oui, ils travaillent sur eux-mêmes. Et ça pose la question, à quel point est-ce qu'ils perdent leur identité d'humain ou pas? Et à la fin... parce qu'ils sont venus sur un vaisseau de colonisation hyperluminique, mais qui a donc une petite population à bord. Et quand les arches subluminiques arrivent, c'est un siècle et demi plus tard, je pense, eh bien, eux qui se disent, bien là, on a perdu notre identité, eh bien non, ils voient que les autres qui ont débarqué ont connu des modifications encore plus poussées et ils ne reconnaissent plus les nouveaux arrivants comme humains. Alors, à cause du gouffre temporel un peu qui les sépare. Donc, on peut jouer avec le matériau beaucoup. On change qui on est. C'est ça, la problématique, c'est la perte des repères. C'est ce qui peut faire peur parce qu'on est habitué à une norme relativement. Il n'y a pas de gens qui ont une corne au milieu du front, en général. Mais si ça devient quelque chose de plus en plus courant, c'est pas qu'on cesse d'être humain, mais on étend la notion. Ce qui peut être très troublant pour certaines personnes qui ne sont pas capables d'accepter, non, on ne peut pas ça, on ne peut pas. Et ça marque aussi l'appartenance à quoi? Une clade, on peut dire, mais c'est tout un aspect social, un aspect de rejet, de révolte contre, évidemment, une société qui est vue comme typiquement trop conformiste, trop sclérosée. Je suis un petit bourgeois qui n'a pas de piercing ou rien, alors je suis peut-être un peu l'exemple de la personne qui devrait avoir une certaine horreur face à ça, mais en même temps, je me dis, bien, si ce n'est pas pour moi, je ne suis pas obligé. Et je pense que c'est beaucoup l'exagération qui vient du rejet, c'est « Oh, mais ils veulent nous obliger à être comme eux. » Non, je pense que le principe, sinon ils font exprès de ne pas être comme vous. C'est un peu ça. On retrouve dans le milieu de la science-fiction, dans le milieu du fandom, il y a en général une meilleure ouverture à ça, à des variations. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça peut être, au niveau cognitif, un petit peu dérangeant. Mais je pense que oui, c'est... Bien, j'espère dans un sens que c'est l'avenir, parce que je ne veux pas d'un avenir conformiste où tout le monde doit être pareil. C'est aussi une chose que la science-fiction dénonce souvent. Donc...
Ah oui, parce que la chirurgie pourrait aussi, dans l'autre sens, servir à ce que tout le monde soit encore plus pareil.
Oui. Si je peux glisser une référence, il y a un texte de Robert Silverberg qui date d'une cinquantaine d'années où un homme contemporain se réveille dans le futur. Je ne me rappelle plus s'il a été congelé ou quoi. Il se réveille et tout le monde est beau, sauf lui. Ils sont tous beaux, ils sont tous essentiellement identiques, blonds aux yeux bleus. Et lui, ben, il a les cheveux noirs, il est poilu, il a la mâchoire croche. Et il y a des femmes qui le désirent parce qu'il est laid, parce qu'il est ignoble, il n'en peut plus. Et finalement, il se fait faire la chirurgie esthétique. Il ressemble à tout le monde, mais la mode a changé. Et quand il se réveille de l'opération, il voit que tous les autres ont maintenant la même apparence que lui avait. Ils sont tous les cheveux noirs, poilus, la mâchoire croche. Il est encore une fois complètement aliéné de tout le monde.
De qui est ce texte?
De Robert Silverberg. Je ne pourrais pas vous dire le titre.
Ça me rappelle quelque chose. J'ai dû lire ça il y a très longtemps. Là, c'est une fable.
Oui.
Y a-t-il encore une question dans la salle? J'avoue qu'avec les lumières, je ne vois absolument rien. Donc ce que vous décriviez tout à l'heure, c'était aussi une forme d'évolution darwinienne volontaire. C'est-à-dire qu'on arrive sur une planète à laquelle on n'est pas adapté. Et on se modifie.
Oui, mais si c'est volontaire, ce n'est pas darwinien.
Oui.
Évolution dirigée, oui, dans ce sens-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste des modifications corporelles, c'est au niveau génétique. On n'a pas du tout explicité comment ça se pouvait, mais c'était carrément des modifications génétiques. Ça se garde. Et aussi des interventions chirurgicales. Les ports d'interface ont été posés durant la grossesse. Alors oui, il y a cette idée que se transformer pour être adapté à l'endroit où on va. Je n'ai pas vu le film Titan parce qu'apparemment c'est très mauvais, mais je pense qu'il est présenté ici et c'est sur ce thème-là. Mais d'après ce que je comprends, c'est pas convaincant. Oh, oui, on a une question en avant.
Du coup, moi, j'aimerais bien aussi revenir sur le corps. On a parlé de chirurgie esthétique et il y a aussi un phénomène, je ne m'y connais pas beaucoup, notamment chez les sex workers, où la chirurgie intervient pour des raisons économiques, pour avoir plus de clients. Donc, il y a des modifications corporelles qui se font pour pour des raisons économiques, du coup. Et dans la science-fiction, du coup, pour ces modifications qui sont en rapport à un métier, une classe, elle se fait beaucoup au niveau de la mécanique, donc notamment des cyborgs et tout pour être plus performants. Et je voulais juste savoir si vous aviez des exemples, enfin des références en fait, dans le cinéma ou dans littérature, sur justement des modifications chirurgicales qui seraient en rapport du coup à des métiers, à des classes, et du coup pour des raisons économiques.
Je sais qu'il y a un roman de Jack Vance où on fait référence, mais assez rapidement, au fait que le protagoniste envisage diverses carrières, mais en un moment donné, il y a certains domaines où occuper cette carrière-là entraîne obligatoirement une espèce de modification psychologique. Et on parle de psychochirurgie qui a des effets secondaires tout à fait indésirables. Mais il le fait comme du revers de la main. Ça donne froid dans le dos, mais il ne s'y attarde pas. Mais oui, le thème a dû être abordé plusieurs fois.
Ben, je pense à une nouvelle de Philippe Aubert-Côté, un auteur québécois où le personnage, pour être policier, devient un croisement de chien et d'humain parce qu'il a un meilleur odorat. Et, bon, il y a différents croisements dans cette société-là. Et il y a des, bon, évidemment, encore une fois, il y a une partie de la société qui est contre et qui commet des attentats pour empêcher ces modifications-là de se faire. Donc, est-ce que ça va un peu dans l'idée que vous aviez en tête, peut-être?
Moi, je pensais au Nuage de Magellan d'Estelle Faye que j'ai lu il n'y a pas longtemps, où effectivement tous les navigateurs de vaisseaux spatiaux sont modifiés. Donc, soit ils sont fait remplacer leur bras normal par un bras mécanique plus pratique, ils ont des implants pour mieux naviguer. Enfin, pas mal de modifications, effectivement. Donc, on est à mi-chemin entre de la chirurgie et puis transhumanisme pour vraiment s'adapter à la navigation sur les vaisseaux spatiaux. Et c'est assez présent, parce qu'il y a un des personnages principaux qui est navigatrice, qui est capitaine de vaisseau, donc elle a pas mal de modifications à ce titre.
Il y a plusieurs récits de John Varley dont les personnages vivent dans la ceinture d'astéroïdes et où les gens se font enlever les pieds parce qu'ils n'ont pas besoin de marcher, ils vivent en apesanteur, ils se font poser des mains supplémentaires. Alors, c'est beaucoup plus commun d'avoir quatre mains que deux mains, deux pieds dans l'espace.
On me fait signe que la durée de notre table ronde est arrivée à son terme. Je vous remercie tous les trois. Merci pour vos questions.
Merci beaucoup.
Et bonne fin de journée. Bonne soirée.